Donc voilà, j'ai pu le peaufiner un petit peu et j'espère que ça va vous parler, vous percuter, vous restimuler. C'est des choses qu'on connaît, bien sûr, mais c'est toujours bien d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire et à nous redire. Donc voilà, je voulais parler spécialement de la réalité de la foi. Est-ce que la foi est réelle? Et qu'est-ce que c'est que cette réalité? Donc les questions qu'on pourrait se poser, je les pose maintenant pour se donner un peu la réflexion. Qu'est-ce que la foi? À quoi elle sert? D'où elle prend son origine? Quelle est l'essence même de la foi? Qu'est-ce que c'est qui la matérialise? Et quelles sont les réalités qui se cachent derrière la foi? Alors on va commencer avec un petit quiz. Voilà, la réalité de la foi, on a un petit homme qui, ou un grand homme, comme vous voulez, qui saute un précipice. Alors, petit A, est-ce que la foi pour vous c'est ça? C'est l'autre bord qui se rapproche. Petit B, il y a tout qui est fermé, on peut passer, on peut sauter, on peut faire ce qu'on veut. Petit C, c'est l'autre bord qu'on ne voit pas. Et puis, petit D, on est accroché par un fil. Alors, est-ce que vous avez une idée comme ça, peut-être? Bon, mon quiz, il est un peu piégé, hein. Voilà, je vous laisse réfléchir. Vous avez vu 4 photos. Non, moi, je crois que la foi, c'est ça. Il y a plus. Il y a plus de risques. C'est impossible. C'est très loin. Mais il y a quelque chose de plus. On fera la suite du quiz à la fin. Alors, c'est super parce que j'ai pu avoir le temps de faire des slides. Je me suis régalé. C'est très sympa. Donc dans ce monde qui part à la dérive, comme ce Titanic, le naufrage, la foi, on va dire, c'est comme cette barque qui nous permet, c'est la grâce de Dieu, cette barque, de pouvoir être sauvés du naufrage. Et Éphésiens 2:8 nous le dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés du naufrage et c'est par le moyen de la foi. La foi, elle tire son origine dans l'existence même de Dieu. Donc la foi naît lorsque je crois que Dieu existe. Du moment que je crois que Dieu existe, il y a un début de la foi. Et du moment que je le cherche, il y a la foi. On est dans le sens de Dieu. Sans la foi, on le connaît, dans Hébreux 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je crois que Dieu existe, alors j'agis par la foi. Par contre, ça ne vient pas de moi-même. Galates 2:20, quelqu'un l'a dit dans une prière tout à l'heure, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc c'est Jésus qui fait naître la foi. Et c'est lui qui l'amène vraiment à la perfection. Il a ouvert le chemin, il a ouvert la brèche, il a ouvert un sentier. Et Hébreux 12, verset 1, nous invite à courir avec persévérance la course qui est devant nous en fixant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Donc la foi, elle est menée jusqu'à la perfection, jusqu'à un accomplissement, un achèvement. La question qu'on pourrait se poser, mais c'est quoi ce perfectionnement? Qu'est-ce que c'est la perfection? Moi, je suis tombé sur ce verset. Non, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, ça c'est après. Qui dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y était avant. Ouais. Bon, ah voilà. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc le monde, pour nous, aujourd'hui, c'est le symbole de tout ce qui n'est pas de Dieu, tous les mauvais désirs, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui éloigne de Dieu. Et je pense que le verset ne dit pas que la foi est le moyen d'avoir la victoire, mais que la foi est déjà en elle-même la victoire. La victoire triomphe du monde. Donc je dirais que c'est une partie de la réponse à la question qui suit. Quelle est l'essence même de la foi, sa nature et sa substance? Donc Hébreux 11, verset 1. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qui ne sont pas vues. Dans une autre traduction, la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou encore la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est bien réelle, on dit que c'est une substance, donc c'est quelque chose de, une preuve tangible, c'est une évidence. Alors dans une affaire judiciaire, un avocat il va chercher toutes les preuves inimaginables pour son client, pour défendre son client et pour convaincre le juge. Alors c'est seulement grâce aux empreintes, aux alibis, aux témoignages, à tout ce qu'il va trouver qu'il va pouvoir convaincre le juge et qui va permettre d'éclaircir une affaire criminelle alors que personne n'a vu la scène du crime. Et donc les preuves permettent de faire basculer le verdict final. Et je pense que la foi, elle est comme ça, mais inversée. C'est-à-dire qu'on a les preuves et la chose, elle va se passer ensuite. Là, dans une affaire judiciaire, la chose est passée et on cherche les preuves de ce qui s'est passé. Et donc dans le verset qu'on a lu dans Hébreux 11, il est dit les réalités qu'on ne voit pas. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Notez qu'il n'est pas dit des choses qui n'existent pas. C'est vraiment des choses qu'on ne voit pas. Donc ces réalités, elles existent, elles sont constantes, mais simplement on ne les voit pas. Ici, dans cette pièce, il y a certainement des microbes, des germes, des bactéries, plein de choses qui volent dans cette pièce, mais on ne les voit pas. Il y a des infrarouges, il y a des ultrasons, il y a des choses qui traversent cette pièce, il y a des ondes, toutes sortes de choses qui sont là, mais on ne peut les voir. Et pourtant, aujourd'hui, on peut dire qu'elles existent. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils perfectionnés, la science a permis, grâce à ces outils, de vérifier, de dire oui, ces choses-là, elles existent, et de les prouver. Et si quelqu'un aujourd'hui dit, non, moi je ne te crois pas, ces choses-là, elles n'existent pas, elles n'y sont pas dans cette pièce, juste parce que je ne peux pas les entendre, ou que je ne peux pas les voir, que je ne peux pas les toucher, que je ne peux pas les sentir, non, elles n'existent pas, cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas, qu'elles ne sont pas là, qu'elles n'existent pas, mais qu'elles sont simplement invisibles. Donc la question que je posais tout à l'heure, alors pourquoi les réalités de la foi, c'est quelque chose de réel, elles sont invisibles? Donc la réponse, ou en tout cas une réponse, je pense que peut-être on peut répondre différemment, c'est parce qu'elles appartiennent au monde spirituel. Est-ce que vous connaissez? Non, ce n'est pas Lazare. C'est l'homme invisible. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Tu l'as vu à la télé ? Ah. On l'a vu dans une série, peut-être certains diront. C'est une vieille série. Il portait des vêtements et des bandages, et qui permettaient de savoir avec certitude que c'était l'homme invisible. D'autres me diront non, on ne le voyait pas, parce qu'il profitait de cette condition. Justement pour ne pas être vu. Donc quand il a enlevé ses bandages et tous ses attirails, on ne le voyait pas. Donc personne ne peut voir l'homme invisible. Ses vêtements et tous ses accessoires, c'était simplement des effets qui permettaient de voir, oui, il est là à un moment donné. Mais l'homme invisible à l'intérieur, il n'était pas là. Enfin, il était là, mais il était invisible. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Donc, voilà, je pense que le monde spirituel est un peu comme ça. On ne peut le voir, on ne peut ni l'entendre, ni le toucher, mais il est bien réel, parce qu'on en voit les effets. Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ce monde spirituel existait bien avant notre monde physique, la Bible, la parole le dit, elle a été formée par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. On reconnaît que ce monde a été créé à un moment donné, mais ce monde spirituel a toujours existé. Et ce monde continuera d'exister après que celui-là, ce monde physique, disparaîtra et passera. Donc savez-vous, on le sait, qu'il y a toutes sortes de créatures spirituelles ici même qui sont présentes. Il y a certainement beaucoup d'anges, il y a certainement des démons aussi. Plusieurs ici en ont déjà vu. Lorsqu'il y a des dépressions, des angoisses, des maladies, les anges de Satan sont à l'œuvre. Mais quand il y a la joie, quand il y a la paix, quand il y a l'amour, quand il y a l'annonce de l'évangile, quand il y a les guérisons, quand il y a la puissance, les anges de Dieu sont encore plus à l'œuvre. Et tout se passe dans le monde spirituel. Il est invisible à nos yeux, mais pourtant il est bien réel. Ah ! On va parler de la télé. Alors quand on allume la télé, les images, elles apparaissent. Et quand on a les images, est-ce qu'elles apparaissent là, maintenant, instantanément, ou est-ce qu'elles étaient déjà là? Ces images, elles sont déjà là, puisque la station diffuse les images en continu. Nous, quand on réceptionne le match de ce soir, au moment où on va appuyer, quand on va voir le match, les images, elles sont diffusées en continu sur ces chaînes. Et si d'un coup, il n'y a plus d'image, elle se brouille, paf, ça coupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, on va taper sur la télé, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a touché la télécommande ou qui a éteint la télé, on va regarder les branchements, on va aller voir l'antenne, voir s'il n'y a pas un problème. Mais je ne pense pas qu'il y en ait un d'entre vous qui va appeler TF1 et qui va dire « Je ne comprends pas pourquoi vous avez arrêté la diffusion de mon émission. » On sait qu'elle est toujours en continu, dans les ondes. On a confiance. On a confiance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a les stations télé qui diffusent. On ne doute pas jusqu'à ce qu'on élimine ces problèmes. Et bien, de même, je pense que Dieu, qui est réel, il diffuse ses bénédictions, sa puissance, toute sa parole, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a accès à ces bénédictions. Et ce n'est jamais l'émetteur qui est cassé, ce n'est pas Dieu qui a un problème, ce n'est pas l'émetteur, mais c'est le récepteur. Donc il faut savoir regarder d'où vient le problème. Donc je crois qu'on doit avoir plus de foi en Dieu que dans un téléviseur. Il y a une parole dans 2 Corinthiens 13, 5 qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Le fait de s'examiner et de s'éprouver permet aussi de voir où en est ma foi. Il n'est pas dit d'examiner les autres, mais de s'examiner soi-même. Et donc, je voudrais continuer avec une bonne illustration dans 2 Rois, chapitre 6. On ne va pas forcément le lire, parce que ça pourrait prendre un petit peu de temps, mais je vais le résumer. C'est Élisée, avec les Syriens, qui attaque Israël. Les Syriens sont en guerre contre Israël et Élisée, le prophète de Dieu, reçoit en révélation les plans de bataille de l'armée syrienne. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que la Syrie essaie de tendre une embuscade contre Israël, Élisée avertit aussitôt le roi d'Israël qui réussit à déjouer l'attaque des Syriens. Donc le roi de Syrie, il est très agacé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va demander à ses officiers d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Donc certainement des espions, de savoir qui est le traître. Qui est le traître? Et les espions lui disent, c'est Élisée, le prophète de Dieu, car il révèle au roi d'Israël les plans de bataille que le roi de Syrie prépare secrètement dans sa chambre à coucher. Donc le roi de Syrie envoie donc une grande armée avec des chars, avec des chevaux, pour aller capturer un homme, Élisée. Ce qui paraît dingue. Donc on en est là. Deux Rois 6, verset 15. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée, se leva tôt et sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et son serviteur lui dit, « Ah, maître, comment allons-nous faire ?» Le serviteur, qui savait ce qui se passait, il disait, « Oula, ils viennent nous capturer, je ne sais pas, on est mal barré. » Donc lorsque le serviteur d'Élisée a vu les troupes syriennes, il a paniqué, il savait que l'armée syrienne était venue pour le chercher à cause des plans de bataille qui étaient révélés. Et donc écoutez la réponse d'Élisée. Et il répondit à son serviteur, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. » Donc, je pense que la plupart d'entre nous, il nous arrive d'être comme le serviteur et dans des situations difficiles, de craindre en fait les conséquences et de dire mais qu'est-ce que je vais faire. Et à ce moment-là, on ne croit pas qu'il y a quelque chose d'autre qui existe à l'instant même et qui est là en continu dans ce monde spirituel et qui est disponible pour nous. Parce qu'on cherche souvent à entendre, on cherche à voir, on a besoin de comprendre avec nos sens. Et ils se disent, peut-être comme Élisée, peut-être certains d'entre nous se disent comme Élisée, en tout cas moi ça m'arrive, où je vais confesser que quelque chose est là, alors qu'en fait il ne l'est pas, et j'espère que ça va venir ainsi. Mais Élisée, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas confessé en disant, il faut que ça vienne maintenant, il faut qu'il y ait ces chars qui viennent, parce que sinon on est mal barré. Il lui dit simplement, ne crains pas tous ceux, car ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Élisée a simplement dit une vérité. Et je pense que c'est juste que les forces armées étaient dans un monde, dans un autre monde que lui voyait, dans une réalité qui était invisible. Donc la clé pour comprendre cela est de reconnaître déjà qu'il existe un autre royaume de la réalité qui est au-delà de ce monde physique. Donc celui qui se limite simplement à ses sens, il aura toujours du mal, il va toujours lutter. Donc les troupes syriennes étaient nombreuses et il y avait seulement Élisée et son serviteur. Ils étaient deux devant des milliers, mais Élisée n'a pas menti, il n'a pas dit n'importe quoi, parce qu'il existe un autre monde de la réalité. Donc par exemple, si on regarde ce tableau, que je m'approche et que je regarde juste ça, je peux me dire, mais ça c'est le monde physique, c'est le monde dans lequel on vit, et je peux rester comme ça toute ma vie, en écoutant, en voyant et tout ça. Et si on recule et qu'on regarde le tableau de plus loin, on voit toujours ce monde physique, il est toujours là, il existe, on ne le nie pas, mais il y a une réalité derrière qui est beaucoup plus grande. Deux Rois 6, verset 17, Élisée pria et dit à l'Éternel, « Je te prie, ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je trouve ce passage vraiment exceptionnel. Élisée n'a pas demandé à Dieu que ces chars viennent, mais il a prié pour que son serviteur croie et voie que c'était réel ce qu'il lui a dit. Et dans le passage, il est dit que les chevaux et les chars, ils n'étaient pas quelque part dans le ciel, mais ils étaient vraiment sur la montagne, autour d'Élisée. Et donc je voudrais insister sur ce point. Élisée n'a pas demandé à Dieu que ceux qui sont avec nous soient plus nombreux au nom de Jésus. Que ceux qui sont avec nous soient plus nombreux au nom de Jésus. Ou alors, je dis donc ça devient, je le dis donc ça devient. Non, cette vérité était déjà réelle. Comment Élisée a puisé cette vérité, qu'il savait qu'il y avait plus? Et je pense, alors ça c'est mon interprétation, peut-être qu'il y en aurait d'autres, il faudrait demander à des théologiens, qu'il avait la parole de Dieu qui lisait. Et dans Genèse 2, verset 1, il est dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Autrement dit, Il y avait des armées d'anges et toutes les forces de la nature qui ont créé le ciel, qui ont créé la terre et qui accompagnaient le peuple d'Israël. À plusieurs reprises, aussi, il est dit dans les passages, Élisée appelait Dieu l'Éternel des armées. Il avait une confiance en l'Éternel. Pour lui, c'était une évidence, une preuve qui était suffisante. Donc, dans la suite du passage, Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son jeune serviteur. Les yeux, alors quels sont les yeux qui se sont ouverts? Certainement les yeux de son cœur, peut-être les yeux physiques, il a peut-être vu vraiment avec ses yeux. En tout cas, Dieu lui a permis de voir à ce jeune serviteur ses chars et ses chevaux. Il a pu voir, en tout cas de son cœur, le monde spirituel et considérer que la déclaration d'Élisée était parfaitement vraie. Et donc on note, comme je le disais dans le tableau, quand il a vu ses chars et ses chevaux, les Syriens étaient toujours là, ils ne sont pas partis. Eux, par contre, ne pouvaient les voir. Et donc là, il y a aussi une phrase, je vais la dire plusieurs fois parce que je trouve que c'est important. La foi ne nie pas la vérité physique. Elle refuse simplement de laisser la vérité physique dominer sur la vérité spirituelle. La foi, elle ne nie pas la vérité physique, mais elle refuse simplement de laisser la vérité physique dominer sur la vérité spirituelle. Donc la foi, c'est de vraiment soumettre la vérité physique à la réalité de la vérité spirituelle. Et c'est là qu'il y a un combat. Si je ne connais pas les réalités spirituelles, le monde physique et ces réalités-là vont dominer. Donc il y a une opposition entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Mais je l'ai dit au début, la foi est la victoire. Donc la foi nous permet vraiment de dominer sur ces vérités physiques. Alors il y a un exemple. C'est le passage qui est juste avant, dans 2 Rois 6, avant celui que je viens de lire avec Élisée. Et qui nous explique un peu cette idée-là, que je trouve, parce qu'on se pose la question de l'histoire du fer de hache. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et je trouve que pour ça, ça illustre très bien. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il a été emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où il est tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, il le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le, avance la main, et il le prit. » Et il avança la main et il le prit. Alors je ne sais pas si vous avez vu une hache flotter, mais je crois que c'est impossible. Et ce qui est super, c'est que dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, dans toutes les tribus, on sait ce que c'est qu'une hache pour couper du bois. Tout le monde sait que si je fais tomber un morceau de fer comme ça, il va couler. Et donc les principes de ce monde physique, c'est qu'il aille jusqu'au fond de l'eau. Et donc, Élisée, il a certainement puisé une vérité qui est dans le monde spirituel, laquelle j'en sais rien, mais en tout cas, celle de la hache qui descend, c'est la vérité du monde physique, et celle qui est spirituelle, c'est de la faire remonter. Il a refusé que cette vérité physique, que la hache coule, domine sur cette vérité spirituelle, et il a permis que l'œuvre pour laquelle ils étaient en train de faire, puisse la terminer. Concrètement, qu'est-ce que c'est pour nous, ces vérités spirituelles? Si la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, oui, effectivement, la Bible, elle le dit. C'est clair, la guérison est donc disponible dans la réalité invisible. Elle est disponible. Si la Bible dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, oui, des richesses sont disponibles dans la réalité invisible. Si la Bible dit, il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alors des enfants sont disponibles dans la réalité invisible. Si la Bible dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle, alors une nouvelle jeunesse est disponible dans la réalité invisible. Et je peux rester en bonne santé jusqu'à la fin. Etc., etc., etc. Dans la suite du passage, c'est parce qu'Élisée croyait plus aux réalités du monde spirituel qu'il a levé la main et qu'il a frappé tous les Syriens de ces cités. Alors c'est étonnant parce qu'il y avait des anges, il y avait des chars qui étaient là pour combattre, mais ce n'est pas en cela qu'ils sont intervenus, c'est dans le fait de les rendre tous aveugles, toute l'armée syrienne. Puis il a dirigé toute cette armée d'aveugles vers le roi d'Israël. Alors là, j'imagine la situation comique d'un seul homme qui a pris toute l'armée qui était aveugle et qui devait se suivre les uns derrière les autres en file indienne. Venez, je vais vous montrer où vous devez aller, et qui les a amenés jusqu'au camp d'Israël. Et le roi, il a dit waouh. Et puis ils les ont capturés à ce moment-là. Enfin, ils les ont capturés, puis après, ils leur ont dit de repartir, je crois. Donc, on peut noter que l'armée des anges n'est pas intervenue avec des armes physiques pour combattre, mais d'une façon surnaturelle, en aveuglant toute l'armée syrienne au signal d'Élisée. Donc Élisée, à ce moment-là, il n'a pas fait de déclaration pieuse, en espérant que cela devienne une réalité. Il savait ce qui était réel dans le monde spirituel, et il a simplement agi en conséquence. Maintenant, il y a une chose, peut-être que là, tu me contrediras si jamais je dis une bêtise, mais rien n'indique qu'Élisée n'a vu les chevaux et les chars de feu autour de lui. Et je pense qu'il n'en a pas eu besoin, puisque lui, il croyait. Son serviteur en avait besoin, donc il a demandé à Dieu qu'il lui ouvre les yeux. Et c'est là où j'en viens au disciple Thomas, Jean 20, verset 24, pour ceux qui notent. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et d'un côté, moi je me dis, je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas vu des choses surnaturelles du monde spirituel. Mais Dieu nous promet que c'est une joie de ne pas voir. C'est super de voir, mais c'est aussi une grande joie de ne pas voir. Donc lorsqu'on opère dans la foi, on n'a pas besoin de voir avec des yeux physiques. La réalité de la foi est une preuve suffisante. On n'est pas dans le stress, on n'est pas dans la crainte, on n'est pas dans la gêne, car Jésus a promis la joie. Il a promis « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Imaginez un enfant qui attend son père militaire qui est parti pendant des mois et sa mère qui lui dit « Ton père va arriver ce soir, il revient de mission ». L'enfant va être fou de joie alors qu'il n'a pas encore vu le père qui revient parce qu'il a entendu sa mère lui dire « Ton père, il va revenir, il est plein de joie ». Et donc il croit, parce qu'il croit ce que sa mère lui a dit. Je termine mon quiz. Alors, est-ce que la foi, c'est ça? Oui. Maintenant, je vais vous demander, alors, d'ouvrir vos yeux spirituels. Voilà, c'est simplement pour illustrer. Mais on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Quand c'est impossible, aux yeux des hommes, quand on ouvre nos yeux spirituels, il se passe quelque chose. Voilà, tout ça pour dire, je voudrais simplement reprendre les quelques points que je viens de dire dans tout le partage. La foi tire son origine dans l'existence même de Dieu. C'est Jésus qui a mené la foi jusqu'à la perfection. La foi est la victoire. La foi, c'est une preuve des réalités qu'on ne voit pas. Si je confesse quelque chose est là alors qu'elle ne l'est pas, mais j'espère que cela va devenir ainsi, ça, ce n'est pas de la foi. La foi ne nie pas les vérités physiques, elle refuse simplement de laisser la vérité physique dominer sur la vérité spirituelle. La foi, c'est d'agir en sorte que ce qui est spirituellement une vérité devienne une vérité physique. La foi, c'est de puiser les vérités qui sont dans le monde spirituel et de les ramener dans le monde physique. La foi participe à ce que nous connaissions les réalités d'un monde qui est invisible. Et dernièrement, la foi nous procure la joie. Et ça, c'est une merveilleuse façon de vivre. Ça, c'est la vie chrétienne normale, de marcher non par la vue, mais par la foi. Voilà ce que je vais vous partager ce matin.